Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez peut-être, dans quelques jours, on sera réunis chez Centre Commercial. Et pour l'occasion, j'ai souhaité interviewer l'équipe de Centre Commercial. J'ai eu l'opportunité de travailler avec eux ces dernières semaines. Et je trouve que c'est une super équipe et ça méritait un épisode pour les mettre en lumière. Je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Nicolas et Roxane. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec deux personnalités. Je suis avec Roxane Cruchando, elle est responsable communication chez Centre Commercial, et Nicolas Israël, directeur retail de Centre Commercial. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Pour commencer, vous connaissez ma question, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter et revenir sur vos longs parcours avant d'arriver à chez Centre Commercial ? Honneur aux filles, on commence avec Roxane, je sais que tu as un petit peu d'appréhension, mais
ça va aller.
Ah, ça va aller, c'est parti.
Eh bien, c'est parti. Alors, du coup, moi, c'est Roxane. Je travaille chez Centre Commercial depuis presque 5 ans aujourd'hui.
Ouais.
Donc, ça va bientôt faire 5 ans. Mon parcours, il est assez classique, entre guillemets. J'ai commencé, j'ai fait des études... de marketing et stratégie des marques. J'ai choisi ce parcours-là parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire en fait, au début. Je voulais rester sur quelque chose d'assez large.
Fait ça où ?
À Paris, dans une école de commerce.
D'accord.
Donc je voulais rester sur un cursus assez large parce que je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. J'étais assez jeune, etc. Quand j'ai commencé mes études. À la suite de ça, je suis rentrée un peu par hasard dans un bureau de presse de mode, à Paris aussi également, qui s'appelle Dress Code. Donc je suis rentrée en stage là-bas. Donc je savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre au début. En fait, j'avais un ami qui bossait là-bas.
Ouais.
Et je cherchais un stage. J'avais mis du temps à trouver, à regarder, etc. Enfin, j'étais un peu, c'est bientôt les vacances d'été. Je sais pas trop ce que je veux faire, mais il faut quand même que je trouve un stage pour valider mes 5 années d'études. Et finalement, donc, j'avais eu un très bon retour de cet ami sur cette agence et sur son stage. Donc, j'ai postulé. Je ne savais vraiment pas trop ce que c'était un bureau de presse, etc. à l'époque. L'entretien s'est bien passé. J'ai été prise là-bas. Ça a duré 6 mois. Et finalement, donc, je m'occupais de la communication et des événements. Donc, je n'étais pas sur la partie presse, mais vraiment dans l'enceinte marketing. Ça s'est très bien passé et finalement, du coup, ils m'ont proposé un CDI à la suite de ce stage. Je suis restée 3 ans, au marketing là-bas. Donc, je m'occupais de toutes les recommandations d'actions stratégiques pour les marques, que ce soit des appels d'offres, que ce soit pour les marques existantes et également de l'achat d'espace pour toutes ces marques.
Trop bien.
Donc, et c'est là que je me suis dit, vraiment, la mode, ça m'intéresse, etc. Mais à la suite de ça, je me suis dit peut-être que j'ai envie de faire autre chose, découvrir autre chose que l'agence, puisque l'agence, c'est très cool, mais on bosse pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Du coup, on creuse pas vraiment, entre guillemets. On survole un petit peu. Enfin, c'est ce que moi, en tout cas, je ressentais et qui me frustrait un petit peu, c'est qu'effectivement, en bossant pour une 50aine de marques ou voire une 100aine de marques, c'est difficile de vraiment plancher sur les stratégies de ces marques et d'aller en profondeur. Du coup, c'est pour ça qu'ensuite, je me suis dit, j'ai vraiment envie de bosser pour une marque qui peut-être aurait des valeurs qui sont un peu plus proches des miennes, etc. Et j'ai eu de la chance et j'ai atterri chez Veja et chez Centre Commercial.
Parce que un truc qu'on sait pas, que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Veja et Centre Commercial a été cofondé par les mêmes personnes.
Mm-hmm.
C'est quoi on va peut-être présenter d'abord Nicolas et on va revenir après sur l'histoire de Centre Co. Nicolas Israël, donc toi tu es directeur retail de Sandco. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur qui tu es et sur ton parcours?
Ok, donc moi j'ai pour commencer, je me suis inscrit à la fac après mon bac dans l'objectif de pas y aller, c'est-à-dire que j'avais pas trop envie de continuer les études. Et je savais que si j'allais pas en cours, personne allait prévenir mes parents du fait que j'y allais pas. Donc voilà, mon objectif c'était je m'inscris à la fac, comme ça ils sont contents. J'y vais pas, ils sont pas au courant
et je suis content.
Et voilà, et tout va bien. Et sauf que au bout d'un moment, il a fallu que je commence à travailler et depuis petit, j'aimais bien les vêtements et ça m'a apparu naturel d'aller postuler dans des boutiques et dans des grands magasins. Et j'ai été pris à Citadium, en fait, au tout début, pour travailler sur le rayon des chaussures qui était au rez-de-chaussée à l'époque. Un gros rayon, je me rappelle. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois, enfin, que j'ai rencontré pour la première fois Sébastien, puisque je pense qu'on était en été 2004, un truc comme ça, 2005, et Veja venait vraiment juste de commencer. Mmh. Ils ne devaient pas être nombreux, et c'est Sébastien lui-même qui venait pour poser des questions aux vendeurs, au staff, pour savoir comment les produits sortaient. Il y avait trois paires à l'époque, enfin trois couleurs sur le modèle la volée, quoi, qui est le premier. Et donc on le voyait de temps en temps, il passait une ou deux fois par saison. On s'est vu une ou deux fois, mais enfin pas plus discuter que ça. Et puis ensuite j'ai évolué à Citadium, j'ai commencé à m'occuper des marques un peu plus streetwear et puis un peu plus de Carhartt aussi, et puis j'ai terminé démonstrateur sur le corner Eastpak. Et je m'entendais bien avec le commercial à l'époque, et Eastpak il venait de lancer une ligne de vêtements, mais il y a peu de gens qui en ont vu et qui le savent, ça a pas hyper bien marché, mais comme j'étais plutôt bien connecté, on va dire, pour en tout cas vu de leur fenêtre, ils m'ont proposé de prendre la route pour être commercial pour eux, et en parallèle aussi de refaire le merchandising dans toutes les boutiques un peu importantes qu'ils pouvaient avoir, que ce soit dans la région de l'Île-de-France ou un peu partout en France. Donc j'ai fait beaucoup de kilomètres avec les collections, ouais, qui marchaient pas hyper bien. Moi j'avais jamais fait ça de ma vie, donc j'étais pas hyper bon. Je posais des catalogues, j'essayais d'avoir des rendez-vous avec des mecs qui répondaient jamais. Et quand j'arrivais avec mon sac, on me regardait vraiment, enfin voilà, comme un extraterrestre. C'était pas. Puis en plus, en venant de Paris, quand tu vas dans les villes en province, enfin tout de suite, c'était pas hyper marrant, quoi. J'ai beaucoup de kilomètres pour rien, entre guillemets. Ouais. En tout cas, enfin pas pour rien, pour savoir que c'est pas le truc que j'aimais le plus.
Mais ça apprend la vie aussi, quand même, tout
ouais.
truc, quoi. Ça,
ouais, ouais, ouais.
C'est faire descendre un peu.
C'était un bon. Oui, puis j'étais tout seul dans ma voiture, j'écoutais France Culture, tu vois, j'écoutais des émissions comme ça avec des mecs qui parlent, et je trouvais ça très bien. Donc ça m'a fait passer quand même des bons moments. Mais je m'éclatais pas dans le boulot, franchement. Et en fait, le hasard a fait que j'habitais juste à côté des bureaux de Veja quand on était encore rue de la Cerisaie à Bastille. Et mon appartement, il était à 10 mètres à vol d'oiseau de l'immeuble, en fait, où il y avait Veja. On était on donnait sur la même cour, quoi. De chez moi, je captais le wifi Veja. Je me disais, tiens, c'est marrant, il y a un mec qui doit être fan, ou je sais pas. Et j'avais pas fait le rapprochement sur le fait qu'il puisse y avoir des bureaux juste à côté. Et à un midi, en allant prendre ma pause déj pas loin de chez moi, puisque les avantages quand on est commercial, c'est qu'on a le droit de dépenser tous les midis dans un resto. Enfin, voilà. J'avais de quoi manger le midi, c'était sympa. Donc, quand je bossais pas trop et que je voulais quand même montrer que j'avais fait un truc, il fallait bien que je me fasse un resto dans la journée pour justifier d'une note de frais que voilà, j'avais fait un truc. Et un jour, je tombe sur Sébastien et Simon, qui était l'ancien directeur commercial, et Julien, qui était jeune commercial à l'époque. Et en fait, je reconnais Sébastien à la terrasse, et puis je lui dis, mais vous êtes pas les gars de Veja, et moi je mange tout seul, je peux manger avec vous. Et en fait, on discute de plein de trucs. Enfin, ils me disent oui, on discute de plein de trucs comme ça le long de la pause déj. Et le courant passe bien. J'étais assez curieux. Ils avaient besoin de quelqu'un, je pense. Et moi, en partant, je leur dis juste, j'ai pas de carte. Sébastien me demande la mienne, j'en ai pas. Du coup, je prends celle de Julien qui me voilà. Donc, ou de Simon, je sais plus. Et je rentre chez moi et je fais juste un petit mail en disant bah merci les mecs pour le déjeuner, c'était sympa. Et si un jour chez vous il y a besoin de quelqu'un, je serais super content de faire partie de l'aventure. Et ils m'ont rappelé deux trois mois plus tard. Et là c'était un entretien, mais c'était plus une formalité. Disons que mon premier entretien c'était un peu quand on s'est rencontrés. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé commercial pour Veja. J'étais pas hyper bon au téléphone, je n'aimais pas du tout le truc de téléphoner pour justement démarcher comme ce que je faisais un peu avant aussi.
Ouais. Commercial, c'est ça, c'est du porte-à-porte.
Bah, surtout quand la marque n'est pas encore hyper connue. Enfin, là, on était en 2010. Veja, ça avait bien fonctionné sur 2008-2009. Et en fait, quand je suis arrivé en 2010, on n'avait pas beaucoup de modèles. Et le marché commençait un peu à s'essouffler. Il y avait aussi la crise des subprimes qui commençait à se faire sentir. Il y a beaucoup de petits détaillants en France qui ont fermé. Moi, je m'occupais principalement de la France. Donc c'était pas le meilleur contexte non plus, et on appelait pas mal de gens qui avaient pas forcément envie de rentrer des nouvelles marques parce que les temps étaient pas faciles quoi. Donc au téléphone mauvais, en tout cas à côté de Sébastien, ça c'est sûr. Et par contre les salons, les tournées, tout ça, j'étais bon, bah les tournées comme j'en avais fait, je m'étais pris pas mal de portes, et que là, même si les temps étaient pas facile, c'était quand même plus évident qu'avec Eastpak avant. Donc j'arrivais à ouvrir des comptes facilement, sur les salons c'était très bien, mais juste le téléphone qui représentait la plus grande partie du job, ça allait pas. Et en fait, en parallèle, on venait juste d'ouvrir centre commercial, puisqu'on l'a ouvert en novembre ou décembre 2010. Moi j'étais arrivé depuis 5-6 mois. Forcément le projet avait été lancé bien avant, donc j'avais pas pu prendre part à tout ça. Mais dans le courant de l'année 2011, Sébastien il me propose d'aller chez Centre Commercial, étant donné que je viens du terrain et que la boutique monte beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, en tout cas en termes de chiffres et de fréquentation, il y a vraiment beaucoup de boulot. Et j'ai rejoint l'équipe en novembre. Et deux ans et demi après, j'étais responsable de la boutique. Je commençais un peu à faire des achats déjà un peu en amont. Je m'étais occupé un peu du web aussi, et puis après j'ai récupéré la boutique, j'ai monté une super team. Voilà, l'équipe était tellement bien qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Moi je passais mon temps à parler avec eux, mais je faisais plus rien tellement ils étaient vraiment super. Et on avait ouvert Centre Commercial Kids en parallèle avec Vanessa qui est partie depuis. Et moi je commençais à m'ennuyer. Sébastien un jour il est venu me voir, il m'a dit bah viens on va en ouvrir une autre, et on a ouvert la rue Madame, et voilà, après, enfin, c'est à partir de là que les choses ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur, quoi.
Trop bien. Alors, centre commercial, qu'est-ce que c'est? On l'a compris, hein, ça appartient à la même famille que Veja, hein, c'est deux entités qui ont été créées par les mêmes personnes. C'est quoi Centreco? On dit Centreco, centre commercial, ouais. CC
Nous, on dit centre commercial, il y en a qui disent CC, Centreco un peu moins, on entend les... On entend les trois, mais on aime bien dire centre commercial quand même. Moi, l'idée c'était d'ouvrir un endroit pour faire les choses qu'on aime, quoi. Surtout, là-bas, c'était quand même plus Sébastien et Guilin, même si maintenant on s'en occupe beaucoup plus, moi et Roxane. Mais c'était de faire un endroit où tu peux faire des events, où tu peux mettre en avant les jeunes talents. Prouver aussi aux gens que tu peux t'habiller correctement et être à la mode entre guillemets sans acheter des trucs qui sont mal fabriqués quoi, en fait. C'était juste et aussi pour montrer que nous on a une façon de faire avec le projet Veja, mais qu'il en existe plein d'autres et qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun à sa façon fait les choses bien. Et voilà, en fait, dès l'instant que c'est bien fait, que ce soit parce que c'est fait en France, aux États-Unis, en Angleterre, ou parce qu'il y a une dimension éthique, ou juste parce que c'est ancestral et que voilà, ça n'a pas bougé. Il y a plein de raisons en fait, qui font que tu peux te retrouver chez Centre Commercial.
Trop bien. Le Centre Commercial, quelle année ça a été créé exactement?
2010.
2010.
Fin 2010, ouais.
Donc on vient de fêter les 10 ans de Centre Commercial. On pourrait se poser quand même la question, c'est un peu une danseuse, c'est un peu un kiff, parce que je me mets à la place de Sébastien et de Guilin, à un moment donné, ils avaient déjà quand même pas mal sur la table, quoi. Pourquoi faire un autre projet aussi, aussi time consuming, enfin qui prend du temps, beaucoup d'énergie, ça se gère quoi.
C'était un peu un laboratoire aussi.
Ouais.
Il y avait un truc de. En fait, on a été au courant de plein de choses. Enfin, nous, on l'était parce qu'on était chez Centre Commercial, mais chez Veja, c'était aussi une façon de regarder le monde de la mode autour de.
Le marché, le monde de la mode.
Ouais. Tu fais les salons, tu vois les collections 6 mois en avance. Donc. Oui. Bah, tu sais ce que les autres vont faire, tu sais quand t'es en train de bosser sur ta collègue, en fait, si t'es, dans le vrai ou pas, been, voilà. Et puis tu peux prendre des inspirs, il est encore temps de changer si t'avais raté un virage, j'en sais rien. Donc déjà, pour ça, c'est hyper bien. En termes de collab, de plein de choses, il y a plein de, Sébastien, il dit toujours, rien que pour Centre Commercial Kids, on a rencontré Oliver Jeffers, bah, on l'aurait jamais rencontré si on n'avait pas fait un magasin pour les enfants, enfin. Mm-hmm. Et des trucs pour, d'autres choses qui arriveront demain qui seront liées à tout ce qu'on a pu tous les gens qu'on a pu rencontrer avec Centre Commercial.
Et puis peut-être qu'au début on avait vraiment aussi envie de créer un lieu pour que, comme Nicolas dit, les gens se rencontrent, etc. Et peut-être qu'au tout début les collections Veja étaient peut-être un peu plus réduites, donc on pouvait peut-être pas tout de suite ouvrir un magasin où justement il y aurait que des Veja. Et comme Sébastien Guilin voulait vraiment créer un lieu différent et montrer justement tout ce que toutes les autres marques peuvent faire. L'idée, c'était vraiment de faire un tremplin et de pouvoir présenter plein d'autres projets, parce qu'il y a plein de projets qui sont tout aussi cool que Veja et qu'on ne connaissait pas forcément. Et l'idée, c'était aussi de réunir toutes ces marques dans un seul et même magasin.
Mmh, mmh. Trop bien. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce magasin? Parce que c'est ce qu'on appelle un multimarque. Qu'est-ce qui fait qu'il a quelque chose d'assez unique?
On n'a pas. Déjà, on a une éthique et on peut dire qu'on s'y tient. Ça fait 10 ans, bientôt 11. On fait hyper attention à la façon dont travaillent toutes les marques qui sont chez nous. Quoi.
Ouais.
Et ça, c'est un truc que tu vois rarement. Au final, ou alors quand c'est fait comme ça, c'est peut-être pas, entre guillemets, aussi pointu. Voilà. Donc en fait, on se prend quand même beaucoup la tête pour trouver des marques qui fabriquent bien et qui soient désirées, et qui soient vraiment... Ouais, dans l'air du temps, quoi. Aujourd'hui, t'as plein de concept stores qui vendent Nike et Adidas à bloc et qui vont te présenter, 5-10 marques très cool. Mais à côté de ça, tu sais que le chiffre d'affaires, il est fait avec Nike et Adidas. Donc, c'est pas un problème, en tout cas pas pour nous. Mais nous, on n'a pas fait le choix de la facilité, on va dire. Voilà. C'est qu'il y a quand même, sur la centaine de marques que tu vas trouver chez Centre Commercial, je pense qu'il y en a 70 que personne ne connaît. Enfin, personne ne connaît. En tout cas, qu'on est très peu à connaître. Mm. Et on travaille tous les jours pour justement les démocratiser, les présenter à nos clients. Ça, c'est pas, je pense, enfin, c'est pas un truc que
tout le monde fait. Ouais.
Que tout le monde fait.
Faites pas le choix de la facilité,
non,
du business avant tout, quoi.
Et puis Roxane avec tous les events, c'est pareil, quoi.
Ouais, je pense tous les events, comme tu dis. Et puis il y a aussi les équipes aussi. Au final, on fait vachement. Enfin, Nicolas dit tout à l'heure, on a des super équipes, etc. Et on prend vraiment un soin très particulier à former tout le monde. En gros, dès qu'on a une marque qu'on trouve super cool, qu'on rentre, etc., on fait des formations, on fait venir les fondateurs, donc c'est hyper cool pour toutes les équipes. Par exemple, quand on a lancé Avenir, la marque de Orelsan et Sébastien Strapazon, directement Orelsan est venu en boutique présenter les produits, etc. C'est des trucs tout bêtes, mais qui finalement font que dès qu'il y a les fondateurs qui viennent parler de leur marque, etc., qui se déplacent, qui prennent le temps, 1 heure, 2 heures, pour échanger avec les équipes, partager, vraiment raconter des anecdotes, etc., etc., ça crée un lien super fort. Et ça fait que, je pense qu'aujourd'hui, ça se ressent quand même en boutique. Tous les vendeurs sont super investis. C'est une vraie team de... c'est vraiment... Ils savent de quoi ils parlent, etc., etc. Et surtout, le projet les touche et les intéresse. Et je pense que ça joue vraiment. Et effectivement, bien sûr, ce qui nous différencie aussi depuis le début, je pense, c'est... la mise en place d'événements. Dès le début, on a vraiment tapé super fort avec ça. Il y a toujours eu une quinzaine, vingtaine, trentaine, quand on pouvait, d'événements par an. L'idée, c'était vraiment de faire des événements qui seraient hyper différents. Ça peut être des signatures de bouquins, des pop-up, des vitrines, des cocktails, des conférences. Enfin, c'est vraiment tout type de...
Ouais, c'est un lieu de vie.
Exactement. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'aujourd'hui aussi, on a réussi à se différencier un peu des autres.
Qu'est-ce qu'on défend quand on est centre commercial? C'est quoi les valeurs de Centreco, finalement? Parce que tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, Nico, sur le fait que les marques que vous choisissez, il n'y a pas qu'une seule façon de faire bien les choses. Mais qu'est-ce qu'on défend de plus, finalement, quand on est Centreco?
La transparence, je dirais.
Ouais. Ouais, la marque bien faite, quoi. La qualité, on va dire, le côté irréprochable du produit, quoi. Ouais.
Et comment on s'assure que les marques que vous présentez sont vraiment irréprochables? Parce qu'il y a toujours... Alors, j'imagine que ça transparaît quand même dans la communication, sur le site web, sur la relation qu'on peut avoir avec les fondateurs, etc. Mais, je sais pas, c'est une question que je me pose comme ça, qui est peut-être très naïve, mais comment vous faites pour vous assurer que vraiment ce qui est écrit sur le site est vraiment fait, quoi?
Bah, il faut faire confiance un peu, mais en fait, t'as quand même t'as des petites marques. Comment dire, c'est assez facile. T'as pas 40 000 salons, il y a pas 40 000 marques non plus qui ont envie de bien travailler. Je te prends juste l'exemple d'une marque que j'aime beaucoup, qui est allemande, qui s'appelle Merz Bischwanen, ou même Kind of Guys. Les gars, tu les vois. T'as le label sur le tissu, tu sais qu'il est suisse ou qu'il est italien. Enfin, là, y a pas de souci là-dessus. On va dans le bureau de Merz Bischwanen, on voit comment ils sont. Enfin, y a plein de choses. T'as des photos, t'as plein de façons de vérifier. Je crois pas qu'il y ait beaucoup, en tout cas de ce côté-là, vu comme les marques sont petites, entre guillemets. C'est quand même plus à l'abri du bullshit, entre guillemets, que des grosses structures qui vont, tu vois, tout miser sur une com qui reflète pas la vérité. Eux, en plus, ils communiquent même pas là-dessus. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on achète une marque, on l'achète parce qu'on la trouve cool, parce qu'on la trouve belle. Là, on commence à se renseigner sur comment est-ce que c'est fait. Bah, si c'est bien fait, là, on y va. Et en fait, c'est le dernier argument. C'est pas le premier, en fait. C'est pas... tu vois, on va pas au salon du Made in Germany pour trouver des marques allemandes. En fait, tu vas dans le salon où il y a les marques cool et ensuite, tu te rends compte que c'est bien fabriqué. Enfin, c'est...
C'est dans le sens, ouais. D'ailleurs, c'est toujours... il me semble que c'est Sébastien qui a toujours dit ça. Il dit, mes chaussures, je crois que 95% des gens ne savent pas que c'est bien fait. C'est juste que les gens... Je veux que les gens les achètent parce qu'elles sont cool avant tout, quoi.
Ouais. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, c'était l'objectif en fait. Comme disait Roxane tout à l'heure, au début, la boutique, on pouvait pas faire une boutique Véja, il y avait peut-être 6 modèles déclinés dans 5, 6 ou 8 couleurs à chaque fois, mais tu pouvais pas remplir 130 mètres carrés, enfin on aurait pu, hein, après, mais
ça serait toujours la même,
ouais,
c'est un peu chiant, quoi.
Et puis on voulait faire un truc complémentaire et ça a toujours été travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont hyper, hyper authentiques et qu'on. Qui présentait différemment donne vachement plus envie. Tu prends Saint-James par exemple, tu vas dans une boutique Saint-James. Bon, tu viens chez nous, tu vois deux pulls sur une table, il y a les choses qui vont avec, il y a toute la silhouette,
il y a une mise en scène, un merchandising qui est un peu plus sexy que chez les copains.
Et la bonne sélection aussi.
Et aussi,
coup,
ouais.
On va prendre les produits les plus cool de chaque marque et on va vraiment venir choisir.
Bien sûr.
Enfin, je pense à Paraboot au début, ça paraissait un peu ringard, etc. Et aujourd'hui,
c'est sexy,
ouais.
Tout le monde porte des Paraboot.
Et maintenant, tout le monde adore et tout le monde se les arrache. Et voilà. Et on a été les premiers à y recroire un peu au début, quoi. Et c'est justement en prenant un peu les meilleures pièces de chaque marque qu'on arrive à faire une sélection un peu cool et qui donne envie.
Ouais. Et toi alors Roxane, c'est quoi ton rôle exactement? Parce que directrice de la communication, c'est assez large.
C'est assez large.
Et des événements aussi. Ça ressemble à quoi alors tes journées?
Eh ben, ça change beaucoup, ça dépend. En fait, si je repars un petit peu d'un peu plus loin, au début, je m'occupais que de la communication de centre commercial. Donc ça englobe quand même tous les événements, les partenariats, les différentes choses qu'on va mettre en place. Les collaborations, etc. etc. Ensuite est venue toute la partie réseaux sociaux et newsletter, donc qui rentre bien sûr dans la communication. Et aujourd'hui, je m'occupe également des événements pour Véja. Donc du coup, une journée type, il n'y en a pas vraiment. Ça va être vraiment... Enfin, ça, change complètement. Ça peut être réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire ces 3 prochains mois, dans quelle boutique, avec quelle marque, aller contacter, je sais pas moi, telle ou telle marque avec laquelle on rêverait de faire un pop-up, peut-être comme réunis. Ça peut être de réfléchir à quelle marque on voudrait s'associer et faire une collab pour centre commercial pour la rentrée de septembre pour fêter nos 10 ans. Ça peut être bosser sur une stratégie des 3 prochaines newsletters. Enfin, c'est vraiment hyper hyper large. L'idée, c'est juste de
d'animer, de communiquer.
Exactement,
et de recruter de nouveaux clients aussi,
et de recruter de nouveaux clients et de donner envie à nos clients et à de nouveaux clients de nous suivre, etc. Et de montrer surtout ce qu'on fait et comment on le fait, et de communiquer sur toutes ces marques qu'on représente et qui justement ont vraiment chacune une histoire, des valeurs différentes, etc. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment de le faire au mieux et de montrer un peu ce que chaque marque a de si particulier.
Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, centre commercial, il y a quand même une sexiness, une attractivité. On sent que les marques ont plutôt envie d'y aller, quoi, de vous suivre. Est-ce que ça a toujours été le cas? Et comment est-ce qu'on acquiert justement cette crédibilité? Et est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a vraiment cette crédibilité?
Il y avait une bonne partie du travail qui avait été faite par Sébastien pour ma part quand même quand je suis arrivé. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de force de conviction quand même pour au début, quand t'as rien entre guillemets, enfin t'as pas 400 marques qui sont d'accord pour rentrer dans ta boutique, quoi. Donc faut convaincre les plus importantes pour que les autres ensuite aient envie de venir. Donc, au début, tu passes ton temps à convaincre, et puis après, si tu as de la chance, tu passes presque ton temps à refuser les nouveaux qui veulent venir, mais pour lesquels tu n'as pas forcément la place parce que les murs sont pas extensibles. On a beaucoup de chance parce qu'on a eu, on a du succès, et on a une belle image aussi parce qu'on se donne du mal. En tout cas, c'est pour ça que Rock c'est là, et on fait plein de choses, pour parler de nous. Donc ceux qui entendent parler de nous, forcément ils aimeraient bien que quand on parle de nous, on parle d'eux. Normal.
Ouais.
Donc ça c'est tous les events, ça y joue beaucoup, mais on n'est jamais arrivé. Il y a toujours des marques avec lesquelles on veut travailler qui sont pas forcément pour, ou
ils sont pas chauds.
Ouais, ou alors qui sont selon eux suffisamment distribués sur Paris. On est sur un marché de niche, donc c'est vrai qu'on n'est pas non plus on n'est pas 400 000 à pouvoir s'acheter des fringues chez centre commercial non plus. Faut pas l'oublier, ça reste un petit marché. Donc dans Paris, il y a aussi un peu de concurrence. Il y a des fois ça peut arriver qu'il y ait des marques avec lesquelles on pense qu'on travaillerait bien et pour qui c'est pas réciproque. Après, c'est quand même relativement rare, et la plupart du temps, les choses, elles se font naturellement avec des rencontres, avec des juste en parlant dans l'équipe avec des marques qu'on a pu découvrir pendant le week-end sur Insta. Et en fait, on rentre le lundi, on s'en parle et on les appelle, ils nous connaissent et ça se fait tout seul.
Il y a quand même une notoriété.
Ouais, et c'est d'ailleurs souvent quand ça se fait tout seul que ça marche très bien. Et parfois, quand on court un peu après les choses pendant une saison, deux saisons, trois saisons, quatre saisons, quand on finit par le faire, c'est parfois pas à la hauteur de ce qu'on attendait, justement, peut-être par frustration, par obligation. Voilà, mais
c'est comme avec les filles,
ça se fait tout seul. Par un peu, peut-être, ouais.
Ou les garçons. Trop bien. En 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et toi, tu les as quand même pratiquement toutes vécues.
Toutes, ouais.
D'après toi, c'est quoi les milestones? J'aime bien poser cette question. Les milestones du shop de centre commercial, quels ont été les moments clés, cruciaux dans l'évolution de la marque?
Je vais plus laisser Roxane répondre là-dessus pour le coup, parce que c'est après son arrivée. Pour moi, avant qu'elle arrive, il y avait
il y a un avant et un après Roxane, quoi.
Bah non, mais c'est vrai que les events, comme elle disait, on a tout de suite appuyé fort pour en citer juste un avant que Roxane arrive. Il y avait NRCOP, il y avait Julien Assange aussi. Enfin, pour NRCOP, on avait vidé la boutique.
Assange est venu.
Non, il était en direct de son ambassade. Je me souviens pour le livre qui venait de sortir. Mais non, on avait vidé la boutique pour NRCOP. On était en blouse blanche. Juste pour montrer que, enfin, c'était pour communiquer sur le fait que c'était eux notre fournisseur d'énergie, comme ça a toujours été le cas pour les bureaux et comme ça l'est toujours pour tous les bureaux et pour toutes les boutiques. Mais on avait vidé la boutique et on proposait des abonnements pendant la soirée, pendant le week-end qu'a suivi. Et tu vois, on en reparlait avec Sébastien hier et deux semaines après, il y avait Fukushima, quoi. C'est marrant de... Voilà. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, c'était il y a longtemps et que l'énergie nucléaire, on en parle souvent, mais voilà, c'est un petit truc. Mais on avait, pour une boutique de fringues, tout vidé pour proposer des abonnements chez NRCOP, c'est pas hyper courant non plus. Donc ça, c'était en tout cas une preuve de notre engagement réel, on va dire. On avait eu la soirée avec Bleu de Paname, on avait juste... complètement bouché la rue. On a des super photos de cette soirée. Ça avait été mémorable. Et puis après, depuis, il y en a eu plein d'autres, mais je vais laisser Roxane pour ça.
Ouais, alors NRCOP, comme disait Nico, après, il y a eu peut-être un gros point de... Enfin, qui a un peu changé. Enfin, non.
En gros milestone, quoi.
Non, un truc qui, du coup, quand même a marqué les années de centre commercial, je dirais, c'est peut-être le lancement de la boutique Kids. En gros, donc au début, on avait juste fait une boutique pour adultes, ce qui était déjà pas mal, enfin, un gros projet. Il y a beaucoup de nos clients, enfin, je sais pas, je dirais que notre... Target, enfin les clients pardon qu'on a le plus vont avoir 30, 40, 50 ans, donc il y en a pas mal qui ont des enfants. Et donc beaucoup d'entre eux nous disaient mais ce serait trop cool de faire une boutique kids, etc. On était un peu là pourquoi pas. Et dans l'équipe il y avait justement Vanessa qui elle bossait chez Centre Commercial et qui était plutôt très intéressée par le monde de l'enfant, et donc on s'est dit bon bah trop cool, est-ce que Vanessa ça t'intéresse? Et donc finalement elle a monté la boutique Centre Commercial Kids en 2013 à une encablure de Centre Commercial rue de Marseille. Donc ça a été quand même un gros tournant pour nous. Donc pareil, hein, c'est la même histoire, c'est la même ADN, c'est ces murs dépeints, c'est ce côté très brut, c'est toutes ces marques qu'on représente qui sont tout aussi bien fabriquées. La seule chose qui change, ça va peut-être être la superficie de la boutique qui est un peu plus petite, peut-être dû aux tailles des vêtements, qui sont un peu plus petits aussi. Voilà, donc ça a été un truc qu'on pensait peut-être pas faire au début et qui finalement, il y a eu une vraie demande et on s'est dit, bon, pourquoi pas. Enfin, c'était vraiment pas une chose à laquelle on avait pensé au début, mais ça a quand même marqué un peu l'histoire de Centre Commercial. En autre gros truc qu'on a eu, je dirais qu'en 2016, on avait fait un événement avec Patagonia. En gros, eux, à l'époque, et ils le font toujours d'ailleurs, ils organisent des Worn Wear Tours. Ils le faisaient à travers l'Europe. Et en fait, on s'est tout de suite proposé de pouvoir accueillir justement toutes leurs couturières pour venir réparer des vêtements qui sont abîmés et déjà portés. Et donc, on a fait ça avec eux. Enfin, pour nous, c'était vraiment hyper cool de pouvoir avoir Patagonia, de pouvoir faire venir toutes ces couturières, de proposer à nos clients de réparer leurs vêtements, etc. Enfin, ça peut paraître... Aujourd'hui, ça se fait peut-être pas mal, mais à l'époque, en tout cas, c'était quand même nouveau et on était super fiers de pouvoir le faire. Donc ça, c'était un tournant assez important pour nous. Après, on a eu en 2017 l'ouverture de la rue Madame. Donc rive gauche, pareil, comme le disait Nico, on avait envie d'un nouveau challenge. Voilà, centre commercial, ça faisait déjà 7 ans, on avait fait beaucoup de belles choses, mais on avait envie d'essayer un peu de se mouiller un peu plus et d'électriser un peu le quartier de la rive gauche qui nous semblait parfois un peu mort. Et justement, nous, je pense en tout cas qu'en 10 ans, la rue de Marseille, elle a beaucoup changé, mais on a aussi, nous, apporté notre... on a vraiment fait bouger le quartier, etc. On le voit en 10 ans, ça a vachement changé la rue de Marseille. Et notre idée, c'était un peu d'essayer de faire pareil avec justement ce côté, enfin avec ce côté un peu plus calme de la rive gauche. On voulait apporter notre patte centre commercial un peu plus, je sais pas, électrisé, un peu plus cool, avec des events, des prises de parole, un truc un peu plus fun. Donc, ça a été un vrai succès. En tout cas, l'inauguration a été un vrai succès. On a eu plus de 1000 personnes. On s'attendait vraiment pas à pouvoir organiser une fête aussi énorme et à ce que les gens se déplacent, etc. Donc, c'était très, très cool. Et donc, ça continue.
Trop bien.
Très, très bien. Et voilà. Après, je dirais que c'est peut-être une équipe qui grossit, et aujourd'hui on est plus d'une trentaine de personnes chez Centre Commercial, donc c'est très très cool, quoi. On a des photographes, des graphistes.
Que chez Centre Commercial.
Ouais.
Ah ouais, c'est vraiment une grosse structure maintenant. Vous êtes 30 personnes, donc il y a qui dans cette équipe? On peut en parler un petit peu peut-être de l'équipe? On fait un petit big up à Jean-Michel, à Jean-Claude.
Il y a des.
Il y a tout le monde.
Il y a des responsables pour chaque boutique. Aujourd'hui, c'est Camille qui s'occupe de la rue de Marseille, Victoria, rue Madame et Marion pour la boutique Kids. Y a eu Abdel qui est parti récemment pendant très longtemps, que les gens qui allaient souvent rue de Marseille doivent connaître de par sa présence et sa constance à toute épreuve. Donc Abdel a bien marqué l'histoire de Centre Commercial, en tout cas de la rue de Marseille. Et il y a Antoine qui est là depuis hyper longtemps, qui s'occupe des commandes web et qui s'occupait du stock au début et puis qui maintenant fait plus que le web, parce que le web a beaucoup grossi. Donc quand vous commandez sur le site, il y a 95% de chances que ce soit Antoine qui ait préparé votre colis, donc ça c'est sympa. Et il y a un peu de turnover quand même, c'est mine de rien. En fait, quand t'es 4 ou 5, tu restes la même équipe pendant 2-3 ans, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Puis en fait, quand t'es 10, 12, 15, 20, il suffit qu'il y ait un mec qui parte par an, et puis en fait, il y a tout le temps quelqu'un qui s'en va, en fait.
Ouais, bien sûr.
Et même si les gens restent tous un an et demi, 2 ans, 3 ans, ce qui n'est pas rien pour des équipes qui sont sur le floor, hein, c'est un métier qui est quand même fatigant. Nous, on est ouvert le dimanche, quoi qu'il arrive. Ça fait des emplois du temps bien chargés. T'as un peu, enfin, pour y avoir été pendant 5 ans, t'as un peu l'impression d'habiter dans la boutique, quoi. Donc c'est un métier qui est prenant. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de changement.
Justement, comment on fidélise les gens? Comment est-ce qu'on rend ce métier attractif, agréable?
Bah, nous, on prend le parti de faire évoluer en interne le plus possible, le plus souvent possible. Et comme on a la chance d'être en constante évolution, il y a toujours des places à prendre. Comme tu le disais au début, c'est la même boîte que Véja, donc il y a aussi les ouvertures de corner, il y a les ouvertures de boutique.
Oui, c'est vrai qu'il y a un transfert aussi, on peut aller chez Véja facilement.
Il y a des passerelles, en tout cas dans le monde du retail, hein, celui dont je m'occupe. Et en fait, on n'attend pas que les gens s'abîment ou s'ennuient à en faire beaucoup et à passer à côté en fait de talent, quoi, parce que c'est souvent, enfin moi pour avoir commencé à Citadium, il aurait fallu prouver 40 fois pour avoir une opportunité chez nous. T'as parfois même pas besoin de prouver, en fait il suffit juste que t'arrives à l'heure et que tu sois souriant et que tu saches de quoi tu parles. Si ça dure suffisamment longtemps et qu'il y a une opportunité, on pensera à toi. Et donc on essaye de remercier comme ça. Et en fait, la composition des équipes aujourd'hui, là où chacun est, illustre parfaitement les chances qu'on peut avoir, en fait, quand on est dans l'équipe, quoi. Il y a plein de gens qui sont arrivés vendeurs il y a même pas 2 ans et puis qui peuvent être responsables aujourd'hui, quoi.
Trop bien. Qu'est-ce qui fait qu'un événement est un bon événement, Roxane? The queen of organization.
Je dirais un événement qui se déroule sans trop d'accro, mais il y a toujours des imprévus.
Ouais.
Mais non, nous en tout cas, ce qui pour nous signifie que c'est un bel événement, c'est en général qu'il y ait du monde. parce que on est habitué à vraiment avoir fait des très gros événements et c'est là où, je sais pas, ça donne le plus de jus, où il y a vraiment un truc qui se passe, tout le monde est, enfin quand il y a du monde, je sais pas, il y a vraiment une énergie qui se dégage et c'est ça qui nous fait kiffer parce que on est dans le jus toute la journée, enfin il y a toute cette préparation qui est hyper excitante, on a envie que tout se passe bien, etc. Et au final, quand on voit 200, 300, 400, 500, parfois même 1000 personnes qui se pointent, bah, on est hyper content et il y a vraiment cette énergie où tout le monde court partout, etc. Mais se regarde, se sourit, je sais pas, il y a un truc qui se passe et pour moi, c'est ça, un vrai bel événement. C'est sentir cette énergie qui se passe et tous ces sourires, etc. Mmh. C'est vraiment ce truc-là.
Ça, c'est vraiment votre récompense, ouais. C'est le soir de match, quoi.
C'est plutôt ce truc-là d'énergie. C'est pas vendre, enfin, on fiche de vendre. À fond le soir de l'événement. L'idée, c'est pas ça, c'est vraiment un moment de partage, d'échange et que les gens se marrent. On a envie que les gens passent un bon moment et c'est comme ça qu'ils reviendront plus tard ou pas d'ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment de se rencontrer et d'échanger.
Comment on arrive à créer à ça?
C'est la magie, mais c'est surtout aujourd'hui. Enfin, je pense que comme on a fait nos preuves aujourd'hui, les gens savent que maintenant c'est cool de venir à nos événements. Mais au début, je pense qu'il a fallu. Essayer de trouver, d'inviter. Enfin, au début, je pense qu'il fallait inviter les bonnes personnes, essayer de trouver des sujets qui touchent. Après, maintenant, on peut beaucoup plus sélectionner et se dire que on a envie de faire tel ou tel événement et on croit en telle ou telle personne. Et voilà. Mais il n'y a pas de. Je sais pas s'il y a une recette miracle, c'est juste de bosser avec les gens qu'on sent bien et avec lesquels on a envie de bosser. C'est un truc de rencontre, je crois.
Ouais, carrément.
Au début, on en parlait beaucoup aux clients. Maintenant, on a. Je sais pas s'ils continuent de le faire ou si on a un peu oublié. Mais au début, quand on faisait un événement, on n'avait pas envie de se retrouver à 30 ou 40. Et la semaine qui précédait, les équipes en boutique, elles en parlaient à la caisse. Enfin, elles disaient, voilà, quand tu passais, venez jeudi, on fait quelque chose. Et on arrivait à faire venir un peu de monde comme ça. Maintenant, je pense que si tu passes dans la rue, même si tu es au bout de la rue, tu viens parce que tu vois qu'il y a du monde devant la boutique et tu dis qu'il se passe quelque chose, quoi. En fait, c'est marrant. Enfin, tu passes un cap quand tu as 100 ou 200 personnes devant la boutique qui fait qu'en fait le monde attire le monde. Et, ouais.
Trop bien. Et le. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. c'est pas grave, ça m'arrive souvent. On peut parler de notre collaboration. Ce qui nous réunit aussi, c'est réuni.
Pas mal.
Non, parce qu'on fait quand même un pop-up store. Enfin, réuni fait un pop-up store et invité par centre commercial. Je ne sais pas comment il faut le présenter d'ailleurs. C'est,
comme ça marche.
Voilà, ouais. Invité par centre commercial pendant une dizaine de jours, du 1er au 10 juin. Pourquoi ce choix de réuni? Là, je me fais l'autopromo et je vais me faire mousser un petit peu. Pourquoi ce choix de...
Pourquoi ce choix? Parce que ça faisait longtemps que pas mal de membres de l'équipe te suivaient et vous suivaient. Enfin, ils suivaient la marque de façon plus générale sur Instagram. Mmh. Moi, je la suivais. Après, il y a Martin, qui est le responsable du web, qui nous en parlait souvent. C'est vraiment à force de se l'envoyer, de se le réenvoyer. Ah, c'est cool, réuni, t'as vu? Ah ouais, j'adore. Une autre fois, je sais pas, une autre personne qui me dit genre, oh là là, vous avez vu les cardigans, c'est super cool. C'est à force de se dire que c'est trop cool, on s'est dit, bon, en fait, on peut pas s'entendre dire que c'est trop cool depuis 2 mois et, ou 3 mois ou 6 mois et se dire que on va rien faire avec vous. Donc c'est de là qu'est née l'envie de faire quelque chose avec Réuni. Et puis bien sûr les valeurs qui sont similaires, l'image de marque, etc. Ça colle complètement à notre ADN et c'est simple, modeste, c'est vraiment, enfin c'est ce qui nous a touché aussi. Nous, on n'a pas forcément pour habitude de lancer des marques qui qui se la raconte ou qui justement, enfin je sais pas, en tout cas l'ADN et l'image des produits de la marque, etc., c'était pour moi complètement similaire et c'est pour ça qu'on s'est dit c'est trop cool, enfin ce serait trop cool en tout cas de faire un truc avec vous et puis je crois qu'après ça a tout de suite bien accroché, en tout cas quand on a fait nos premiers échanges et c'est ce qui a fait que, à mon avis, aujourd'hui on en est là.
Trop bien. Vous avez profité de... Bon, on peut pas parler du Covid, mais on en parle quand même. Vous avez profité quand même d'un des confinements, du troisième confinement, pour refaire un petit coup de rafraîchissement de la boutique. Pourquoi c'était nécessaire et est-ce que le concept change ou pas vraiment?
Non, ça change pas. C'est C'est juste que ça fait longtemps qu'on voit les mêmes, le même mobilier, qu'on s'est un petit peu lassé, que bah, au début, quand tu ouvres une boutique, tu la penses d'une certaine façon, et puis au fonctionnement, il y a des choses qui sont pas forcément idéales, et voilà, même si tu peux composer avec un temps, bah, quand tu as l'occasion d'ajuster tout ça, tu le fais. On a la chance de pouvoir se le permettre aussi financièrement, parce que c'est pas anodin. Et voilà, on a profité de cette accalmie, parce que de toute façon, si on l'avait fait plus tard, il aurait fallu fermer la boutique. On a suffisamment fermé ces derniers temps pour pas fermer quand on peut être ouvert. Donc on l'a fait à ce moment-là. C'était l'affaire de quoi, trois semaines, un mois, mais ça va être un petit peu plus peut-être plus minimal et plus dans l'air du temps. Ça correspond aussi à un tournant où les équipes se sont beaucoup renouvelées, en tout cas depuis 2010. Moi, je suis un des seuls finalement à être resté. Et il y a une nouvelle énergie. Ceux qui travaillent avec moi aujourd'hui, ils ont tous 10 ans de moins que moi. Ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas les mêmes envies, ils consomment pas de la même façon. Et voilà, c'était aussi. Enfin, je pense que si tu veux être actuel et si tu veux rester actuel, il faut que tu changes.
Ouais, il faut se rafraîchir de temps en temps. Ouais, donc, petit ravalement de façade.
Ouais.
C'est quoi les 10 prochaines années qui viennent? Parce que on a passé 10 ans. Enfin, t'as passé 10 ans là. Roxane, une bonne partie d'une paire d'années quand même, hein, mine de rien. C'est quoi vos projets pour les 10 prochaines années? En tout cas, comment vous rêvez ces 10 prochaines années?
Bah, je pense que l'idée, c'est encore de s'éclater et de faire des choses qu'on aime. Après, c'est vrai qu'on n'a pas pour habitude de parler de ce qu'on n'a pas encore fait. Mais ouais. Enfin, on essaye de plutôt parler de ce qu'on va faire. Mais je pense que voilà, c'est continuer à se faire kiffer, faire plein de projets et de rencontres. L'idée, peut-être, de mettre en place plus de collaborations. On l'avait fait un peu au début de centre commercial, avec, par exemple, une collaboration avec Roséana, il y a voilà, un bon moment déjà. On avait un peu laissé tomber ces collaborations parce que pris dans d'autres projets, tels que l'ouverture de Kids, la rue Madame, etc. Véja qui se développait en parallèle. Aujourd'hui, on a, je pense, les équipes nécessaires et puis l'envie aussi de comme Nicole disait, même avec ses travaux, enfin tout ce côté un peu rafraîchissement, on a envie de reprendre un peu tout ça. Et donc je pense que ça va être des collabs qui arriveront prochainement. Après, je sais pas si Nico, tu veux ajouter quelque chose, mais
ouais, garder notre ADN, en tout cas garder le côté cool et pas pédant que la mode peut avoir parfois aussi. C'est vrai que voilà, on fait attention à la façon dont on reçoit les clients, et ça, c'est un truc. C'est pas justement un changement, c'est bien
une prolongation.
Un truc que je voudrais voir perdurer encore longtemps, parce qu'on a vite fait de s'envoler parfois avec le succès. Donc c'est rester humble et continuer, et puis continuer d'expliquer avec passion ce qu'on fait. Il y a des nouveaux qui arrivent qui sont hyper contents de le faire, pour qui c'est juste un rêve de bosser avec nous. On a beaucoup de chance de s'être trouvés tous, et voilà, que ça continue comme ça, que ça fasse grandir des gens, que ça permette de lancer des carrières ou même des jeunes créateurs. C'est fait pour ça, quoi.
Oui, de toute façon, à un moment donné, quand on est retailer, on aime avant tout les gens. Ouais. Et on aime être entouré de gens et passer du temps avec des gens, faire grandir les gens, faire kiffer les gens. Donc ouais, c'est un bon programme, ça, pour les 10 prochaines années. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de un peu business. Sur l'acquisition, parce que c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être une boutique. Une autre question, enfin j'ai plein de questions qui s'entrechoquent dans ma tête, là c'est terrible. Il y a le côté web qui est assez important, alors parce que Covid, mais est-ce que c'était aussi important avant? Comment est-ce que vous le faites grandir, ce business sur Internet? Est-ce que c'est un vrai business sur Internet où il n'y a pas de vocation à trop le pousser? Et l'autre question, est-ce que Centre Commercial a vocation à ouvrir plus de points de vente? Aller en région, aller à l'étranger, etc., etc.
Alors pour le web, ça reste quelque chose de très important, qui est aussi gros qu'un point de vente. et qui aurait qui a vocation à devenir bien plus important. On a fait une refonte du site internet. C'est Martin, dont j'ai pas encore parlé, qui est avec nous depuis je crois maintenant 6 ans, et qui a justement commencé vendeur chez Centre Commercial et qui est responsable du site maintenant. Donc pas mal comme parcours. Et donc lui, il est dessus. Ça fait un moment qu'on est en train de refaire le site. Là, il est sorti il y a quelques mois. Il est très bien. Le Covid a aidé un peu, mais on n'est pas dans la fast fashion non plus. Les produits qu'on vend, ça reste des trucs...
ça, c'est cher. C'est,
ouais, et puis il faut les voir, il faut les toucher. Même pour nous, après, dans les achats, ça s'est ressenti aussi. Le B2B, c'est compliqué. On achète au coup de cœur, et puis pareil avec l'expérience, les gens, enfin le lieu, tout ça, ça y joue aussi beaucoup. T'as envie de te faire plaisir quand tu viens chez nous, ça passe par l'achat d'une fringue, d'un bouquin, je sais pas. Bon, sur le site, tu peux acheter quelque chose quand tu connais déjà, tu peux t'acheter une paire de baskets quand on a déjà une, quand tu connais ta pointure, tout ça, mais c'est un peu plus compliqué. Donc ça reste conséquent, mais on n'a pas fait x10 parce qu'on était fermé, quoi. Et pour ce qui est de l'ouverture d'autres boutiques, c'est des choses auxquelles on pensait au début. Après, l'avenir, quand même, il est beaucoup en ligne. Faut savoir que, on reste sur un marché qui n'est pas immense, et il y a toujours un concurrent dans une ville, pas loin. Enfin, si tu veux faire centre commercial à Bordeaux, il y a déjà quelqu'un qui s'en est occupé. Il y en a même deux ou trois. Pareil si tu veux faire à Lyon, enfin voilà, c'est, t'arrives pas comme ça, tu poses pas tes valises et tu dis à tous les gars avec qui tu travaillais on va faire un truc là-bas. Ça fonctionne pas comme ça. Si tu veux aller à New York demain, ils t'ont pas attendu non plus, donc c'est un peu compliqué. Puis le multimarque, il a pas une marge de dingue non plus, donc ça reste un business qui doit être vraiment bien tenu pour être rentable, au prix des pas de porte, au prix des loyers. Ouvrir à droite à gauche, c'est pas dans les targets. Moi, personnellement, j'aimerais bien un centre commercial plus grand. Bon, on verra si on trouve un lieu un jour pour juste faire la même chose en un petit peu plus grand. Ce serait déjà pas mal.
Roxane, t'as quelque chose à rajouter là-dessus?
Je crois pas. Non. Après, nous, voilà, l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre Internet et le lieu de vie, et c'est ce qu'on essaye de faire.
Ouais,
et
c'est avant tout le lieu de vie.
Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Du coup, oui, on croit beaucoup en Internet, mais on croit aussi beaucoup en rencontres, donc on va juste essayer de continuer à en faire un lieu de rencontre, et puis on verra pour la suite si ça s'exporte.
Et puis après, bon, grandir, grossir, c'est pas forcément une fin en soi. À un moment donné, je trouve que c'est hyper louable de se dire on a une petite pépite, faisons-la, consolidons-la le plus longtemps possible. Faisons grandir les gens, etc. Et c'est très très louable, c'est très cool. Juste pour revenir sur l'acquisition, parce que c'est quand même un sujet. À un moment donné, vous êtes connu, les gens, vous êtes une boutique de destination. Comment est-ce qu'on se fait connaître à plus de gens? Alors j'imagine que les collabs, les pop-up, cette ouverture à de nouvelles communautés vous fait connaître. Et c'est quoi les autres stratégies pour...
Ben, ça peut être d'avoir un bureau de presse, par exemple. Ça peut servir.
Vous avez un bureau de presse?
On n'en a plus, mais on en a eu. Ouais. En fait, on travaille avec des bureaux de presse de façon occasionnelle maintenant, puisqu'on est quand même bien établi. Et voilà, comme tu l'as dit, on a déjà notre clientèle, etc. Mais ça va être sur des projets un peu spécifiques. Ben, type l'ouverture de la rue Madame, c'était un gros tournant pour nous. C'est une grosse boutique. On avait besoin de se faire connaître. Je pense que les magasins Rive Gauche, enfin, ce type de magasin Rive Gauche, c'était pas forcément, enfin, c'était quand même un sacré challenge. Donc, typiquement, pour se faire connaître et, pour illuminer le quartier et, ouais, continuer à se faire connaître et peut-être recruter de nouvelles personnes. On s'est accompagné d'un bureau de presse et ça nous a bien aidé effectivement à avoir des articles, etc., etc. Donc je pense que ça a quand même vachement servi. On dit que la presse est morte, mais la presse papier en tout cas, mais je ne pense pas, parce que beaucoup, il est arrivé énormément de fois qu'ensuite, suite à des parutions, dans le L, Air France Madame, etc., il y a des clientes qui se pointent avec le magazine en disant « Voilà, je vous ai vu dans le L, etc. Je ne connaissais pas du tout, génial. » Enfin, ça a vraiment drivé du monde, rue Madame. Donc, au final, ça a vraiment très bien fonctionné. Donc, ça peut être un moyen de se faire connaître. Après, nous, on ne fait pas du tout de publicité. Donc,
par exemple, sur Instagram, etc.
Non, donc par exemple, ça ne va pas, enfin, ça va pas être un des moyens qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon naturelle et qui prend du temps, en fait.
Ouais.
Je pense que si on ouvrait à la publicité en targetant, je ne sais pas moi, les Japonais sur, ben, sur les paraboutes, par exemple, parce qu'on sait qu'ils sont hyper friands, peut-être que ça nous permettrait plus rapidement de gagner ben voilà, encore plus de visibilité au Japon, etc., en targetant comme ça. Mais nous, on a vraiment envie de le faire de façon très douce. Comme tu l'as dit, on prend notre temps et voilà, on court après rien. Ça vient tout seul. Et puis, le bouche à oreille fait son chemin. Et voilà, on espère qu'en y mettant tout notre cœur et toute notre énergie, ça se fera naturellement.
Il n'y a pas de secret.
Non, on fait le truc naturel.
Non, mais ouais, non, mais c'est souvent ce que je dis à beaucoup de gens, c'est que finalement il y a pas vraiment de secret. Et je te rejoins aussi beaucoup sur le fait que la presse a encore de beaux jours devant elle, parce que nous, en tout cas d'expérience, on voit que c'est un des points de contact que les gens sur lesquels les gens tombent, et en tout cas ça les ramène vers nous à un moment donné, quoi. Trop bien. Est-ce qu'on peut parler de direction artistique centre commercial ? Est-ce qu'il y a une direction artistique ? Est-ce que l'editing que vous faites des pièces que vous choisissez, il y a une DA forte centre commercial ?
Non, moi je trouve pas. Je pense que ça, enfin, fais attention à acheter des vêtements qui soient portables. Dans lesquels on se reconnaît. Enfin, en fait, on est nombreux, mine de rien. Et puis, encore une fois, avec Veja, on est encore plus nombreux. On est un peu nos premiers clients et on représente pas mal, finalement, le panel, le panel type de notre clientèle, que ce soit entre 22, 23, 25 ans, on va dire, et 40, quoi. Donc, on regarde comment on a envie de s'habiller, puis on achète en fonction, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que très souvent, là, c'est plus moi qui fais les achats avec Martin et Tom qui travaillent beaucoup avec moi. Et avant, c'était plus Seb, mais on achète parfois, quand on va dans les salles, on achète les vêtements en se disant déjà qu'on va les mettre dans notre propre garde-robe, quoi. Donc, ça arrive souvent. On s'achète un peu les choses pour nous.
Ouais.
Pas que, parce qu'il n'y a pas que nous, mais on fait un truc pas sage, mais... truc simple, intemporel et dans lequel tout le monde peut se reconnaître. On essaye de faire pareil du côté femme. On a Roxane qui nous aide aussi parfois. On fait attention à ce que ça reste réaliste,
ouais.
En tout cas. Ouais, ça c'est, enfin, pour moi, c'est le seul truc. Voilà. On part pas en vrille avec des petits blousons à 4 000 euros. Enfin voilà, on fait pas de tout ce qu'on a. Normalement, ça vaut son prix.
Comment vous faites pour éclater vos clients ? Je parle de customer success. De customer success, je ne sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs, mais le service client, ou en tout cas faire en sorte que vos clients se mettent bien. D'ailleurs, qui sont vos clients ? C'est une question que je me posais aussi. C'est, d'après vous, alors là, c'est qui vos clients ?
Beaucoup qui habitent dans le quartier, ou dans l'arrondissement, ou à 2 km aux alentours max. Ça a commencé comme ça d'ailleurs. Quand on est arrivé, c'était vraiment que les gens qui habitaient dans la rue ou dans la rue derrière, quoi. Aujourd'hui, on a, je pense, 40% des clients qui sont parisiens et qui habitent vraiment à 5-10 minutes à pied, je pense. Peut-être un peu plus loin parfois, mais vraiment pas beaucoup. On a beaucoup de gens qui viennent le week-end, qui peuvent venir de grandes villes de province ou même de capitales européennes. Et puis après, t'as des Japonais, des Sud-Coréens... Parfois des Chinois, un peu moins, mais les Chinois d'Hong Kong ou de Shanghai, quoi, qui viennent pour faire du shopping, qui sont plus pointus, quoi, qui vont venir à Paris exprès en mode destination pour nous, avec les parutions qu'on a, ça se fait quand même assez facilement. Et puis t'as des Américains aussi, voilà, disons que ça, je pense que ça fait 30% de clientèle qui est vraiment à l'international loin, et puis 30% qui est européenne et pas très loin, c'est ceux qui viennent pour le week-end, quoi. Et puis les locaux, quoi. Et 25-60 ans, je dirais. Ce que j'avais remarqué quand on a commencé à centre commercial, c'est quand t'es entre guillemets, quand t'es en place dans la vie, tu l'es un peu toute la vie, quoi. Et des fois, tu vois les mecs de 60 ans qui sont connectés, qui connaissent les marques mieux que toi, et en fait, tu te dis, tiens, c'est... En fait, ça fait très longtemps qu'il est comme ça, lui, et il continue, et en fait, enfin, quand t'as ces clients-là, tu...
Tu les as pour la vie.
Ouais.
Et la question que je me posais, c'était comment vous faites pour avoir un service client cool, pour fidéliser surtout, c'est quand même ça le sujet, c'est comment tu fais en sorte que...
Ah ben nous on est cool déjà,
ouais.
on force rien, les vendeurs ils connaissent le produit, ils sont hyper contents de le vendre, ils ont qu'une envie c'est de se l'acheter à eux aussi, donc tu vois ils t'en parlent comme si c'est eux qui l'avaient fait, donc déjà ça, ça donne envie. On pousse pas à la conso, on fait pas de vente complémentaire, il y a pas de truc comme ça. Moi, j'ai pas de, je me sers pas d'outils pour savoir qui travaille bien ou qui travaille pas bien. Enfin, c'est un truc d'équipe et c'est un ressenti. Donc, ça se fait naturellement encore une fois. Je pense que c'est ce qui plaît aux gens, c'est que quand tu rentres chez Centre Commercial, on ne saute pas dessus. Si t'as besoin, on est là. Et je pense que ça suffit. Enfin, c'est ce que les gens veulent, quoi. Mmh. T'as envie de consommer raisonnablement. Tu viens t'acheter un pantalon, t'as pas envie qu'on t'en vende 5, quoi. Tu veux juste acheter le bon, et puis si t'as des questions à poser dessus, on sache te répondre, mais pas plus. Et ça, je pense que c'est ce qui plaît, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui reviennent souvent. Donc.
Ouais.
Ouais.
Le futur du retail. Question à la Garcito. Comment on fait pour. Ça ressemble à quoi le retail dans 10, 15, 20 ans vous faites partie de ces gens qui pensaient que ça ne va pas changer, que finalement, c'est une belle boutique, une belle sélection, un bon service, et basta cosy, des bons événements, et ça
ouais,
va
voilà,
durer
faire vivre le truc. Il
ouais.
faut le faire vivre, en fait, je pense. Parce que beaucoup de boutiques s'endorment, beaucoup de pour avoir fait moins. Mes tournées de France avec Ispac, je voyais des gens derrière leur vitrine, les bras croisés sur leur comptoir, en train de se demander pourquoi il se passait plus rien, alors qu'ils n'avaient pas changé la disposition de trois sacs sur les 4 dernières années. Voilà, nous on vit de la boutique, on la retourne, on change tout, on fait des vitrines, on fait plein de trucs et on est tout le temps en train d'essayer de ramener quelque chose. Et c'est ça, enfin, c'est ça qui fait qu'on s'ennuie pas, c'est ça qui fait que le consommateur a envie de continuer de venir et ben, c'est ça l'avenir. Enfin,
ouais. Même si on s'aperçoit qu'il y a des Amazon, des géants comme ça, etc. Je pense qu'aujourd'hui les même si ça passe par ça, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de choses plus simples, de se retrouver, de bien acheter, etc. Donc, on pense que ça devrait continuer à bien fonctionner pour les
ouais.
prochaines années.
L'idée, il y aura toujours des clients pour ça.
Je pense, ouais. Mmh. Et heureusement.
Carrément. Trop bien. Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. Sauf s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que vous auriez souhaité qu'on aborde. Non. Petit message... à la famille. Non, c'est bon.
Je crois que ça va.
Ok, ça marche. Et ben, bah si, quand même, deux petites dernières questions, quand même, c'est qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast ça, c'est une question que j'aime bien poser. Vas-y, Roxane. Tu peux
ah,
aller.
Moi, pardon. Ah, je croyais que c'était pour les auditeurs. Qui est-ce que j'aimerais entendre dans ce podcast voilà, là, j'ai pas du tout réfléchi.
On peut demander à Nicolas en attendant, comme ça tu peux réfléchir.
Bah, si tu peux inviter Christophe Lépine, c'est bien. Je sais pas si tu l'as pas déjà fait,
non.
Mais je crois pas. Ouais. Lui, j'aimerais bien l'entendre parler pendant 45 minutes pour nous raconter un peu son histoire.
Ok. Toi, Roxane, non, tu sais pas. Eh ben, écoute, c'est pas grave. T'es pas très curieuse. Et... Non, mais c'est pas grave. Ok. Eh ben, merci infiniment. Bonne continuation. Et puis, on se voit le premier, enfin le 31 pour installer la boutique.
Le 31 pour installer, ouais. Et la formation.
Et la formation, bien sûr. Et on vous attend de pied ferme chez Centre Commercial du 1er au 10 juin, en tout cas pour le pop-up réuni, mais vous pouvez venir quand vous voulez le reste du temps.
À
partir du 19 mai, exactement. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.